Bonjour Sylvain Faure.
Bonjour Mathieu Béliard.
Il y a 4 ans, jour pour jour, l'euphorie de la victoire sans doute. Quel regard porte l'homme que vous êtes aujourd'hui sur vos idées, vos ambitions, vos aspirations d'il y a 4 ans ?
Je pense qu'il y a 4 ans, on avait promis une forme de renouveau de la vie politique française, à la fois dans les visages et aussi dans les méthodes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été tenu. Et puis sur la méthode, sur l'approche, je pense aussi que les choses ont changé. Si vous voulez, ce qui est frappant, et je pense que les Français s'en rendent compte malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun sujet qui est abordé sous l'angle dogmatique. Je pense que là, on a quelque chose qui a quand même modifié assez profondément le paysage politique français, c'est de se dire, est-ce que c'est utile, cette mesure, ou est-ce que c'est inutile, purement idéologique, purement dogmatique, purement corporatiste ? Ça, je crois que c'est deux changements qui étaient promis en 2017 et qui ont eu lieu.
Est-ce que vous l'avez vu, Emmanuel Macron, déchanter dans son ambition réformatrice, les institutions, le calendrier politique, je veux dire, est-ce que ça ne vous ramène pas un président dans le droit chemin ?
Oui, en fait, il y a deux choses, si vous voulez. La première chose, c'est que dans l'exercice du pouvoir, on se heurte assez systématiquement à ce qu'il est convenu d'appeler l'état profond, c'est-à-dire le fait que malgré tout, il y a une inertie de la machine d'État, il y a une inertie de la machine administrative qui n'est pas due nécessairement à la mauvaise volonté des agents, mais au poids global de cette machine, et ça peut parfois ralentir ou rendre moins efficaces des changements qu'on aurait voulu produire. Tout le monde se rend compte que entre ce qu'on dit et ce qu'on veut faire et ce qui se passe réellement, il y a toujours un temps de recul, un temps d'écart. Il y a toujours cette espèce de retard à l'allumage. Il y a un deuxième sujet quand même qui est très important, c'est que en 2017, le monde n'était peut-être pas tout à fait aussi dangereux qu'il l'est devenu aujourd'hui. Et je pense que la montée de la Chine, la montée de la Turquie, même si Trump est parti, il y a quand même une stratégie américaine qui demeure. La permanence du djihadisme. Tout ça, c'est des sujets qui s'imposent aussi à un chef de l'État et ça fait partie de la charge et ça n'est pas présent dans une campagne. Dans une campagne, on peut en parler, on parle de l'Europe, etc. Mais cette espèce de poids géopolitique qui s'impose à un chef de l'État est quelque chose de très fondamental.
On peut reprendre avec vous, Sylvain Faure, quelques discours que vous avez écrits à travers les hommages rendus à Jean d'Ormesson, à Johnny Hallyday, dans un tout autre registre, au colonel Arnaud Beltrame. Ces discours ont un fil qui les relie. Chez Emmanuel Macron, il y a une certaine idée du héros français.
Oui, il y a une idée du héros français. C'est un mot qu'il affectionne, le héros. La réalité de l'héroïsme, c'est important. Et je crois que ça va encore au-delà. Je crois que dans le cas de Johnny, comme dans le cas d'Arnaud Beltrame, comme même dans le cas de Jean d'Ormesson ou d'autres, Charles Aznavour, Simone Veil, la particularité, c'est que tous ces gens-là sont vraiment des morceaux de notre histoire nationale. Et donc chacun, à sa manière, a occupé une place dans l'imaginaire français, dans le récit français, dans le paysage français. Et donc, vous verrez, ces discours ne font que raconter l'histoire de ces gens-là, ne font que redire leurs faits et gestes, et les gens les reconnaissent, ça leur parle, et du coup, ça crée une émotion collective, et on se recueille, on se réunit comme Français autour de ces figures.
Mais alors, par définition, dans l'héroïsme, est-ce qu'il ne faut pas avoir une forme d'individualisme ? Je veux dire que le héros doit être solitaire, il doit se détacher du groupe, transgresser aussi. Vous me voyez venir, hein, bien sûr, c'est pour le collectif, mais ça isole. Est-ce qu'un président, à vos yeux, ça doit être ce genre de héros ?
Je pense que le président de la République, il a, en tout cas en France, il a un rapport direct avec le peuple. C'est-à-dire que vous avez entre lui et le peuple, si j'ose dire, toutes sortes de strates, des corps constitués, un gouvernement, un parlement, etc. Mais à la fin, ce lien est direct. Et donc, il y a une forme aussi de solitude présidentielle parce que dans le système politique, il est le seul à être élu par le peuple tout entier. Et donc, il porte cette responsabilité. Et c'est vrai qu'un président n'agit pas, ne réfléchit pas sans se demander ce que veulent les gens, que pensent les gens. Les Français, vous le voyez, vous le savez, projettent leurs émotions et leurs attentes uniquement sur la figure du président de la République. Et
est-ce qu'il est vrai d'ailleurs que le président est soucieux de marquer l'histoire, préoccupé de ce qui restera de lui ?
À partir du moment où vous mettez le pied à l'Élysée, vous savez que vous rentrez dans l'histoire. 2 mois plus tard, vous êtes dans les manuels d'histoire, vous êtes dans les dictionnaires, etc., etc. Donc, vous changez complètement de dimension, vous changez de braquet. Alors on dit après, oui, c'est la démesure, c'est, vous savez, le fameux mot lubris, c'est l'ivresse du pouvoir. Il n'y a pas d'ivresse du pouvoir, en réalité. C'est juste que vous et moi, si demain on rentre à l'Élysée, ce que je ne vous souhaite pas et ce que je ne me souhaite pas non plus, eh ben, tout d'un coup, on va sentir que quand on lève le bras, tout d'un coup, il pèsera plus lourd, si vous voulez. Et vous êtes amené à exercer des responsabilités dont vous êtes comptable devant les Français, mais dont vous êtes comptable devant l'histoire de France.
Vous venez de dire que je ne vous souhaite pas. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable que d'entrer à l'Élysée ?
il y a quelque chose d'un peu surhumain dans cette fonction. Je ne dis pas ça que pour Emmanuel Macron, mais je pense que structurellement, être président de la République française, c'est exercer une charge comme il en existe en fait probablement très peu. Vous avez toujours ce lien avec le peuple, ce lien de reddition de comptes, et en même temps, vous êtes confronté à toutes les difficultés du pays, mais aussi de la France dans le monde. Donc c'est absolument écrasant.
Je reprends à partir du rapport à l'héroïsme. Sylvain Faure, c'est vous qui avez impulsé l'idée de verticalité du pouvoir chez Emmanuel Macron, là où En Marche et la campagne, c'était très participatif, très horizontal. Vous arrivez à l'Élysée et on bascule. Il y a la pyramide du Louvre. Il faut de cette incarnation, d'une forme, dites-vous-même, de transcendance.
Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a eu vraiment une préoccupation en arrivant à l'Élysée, c'était de restaurer le poids de la verticalité républicaine, c'est-à-dire le fait que précisément le président est l'émanation du peuple, rend compte au peuple, mais finalement est dans une situation particulière. Mais ce qui est très important, c'est que ce poids-là, cette verticalité, elle passe beaucoup par des symboles, elle passe aussi beaucoup par une parole. Et on avait constaté, si vous voulez, que progressivement, la parole présidentielle, au fil des quinquennats précédents, s'était beaucoup diluée. C'est-à-dire qu'on y prêtait moins attention. Il y avait un petit côté comme ça, routinier, au fond, dans la parole présidentielle. Et on a fait un gros travail, collectivement, pour faire en sorte que la parole de ce président-là, c'est-à-dire que quand il s'exprimait, il voulait dire quelque chose et les gens pouvaient ou devaient l'écouter. Si vous voulez, ce que je pense, c'est que le truc en plus, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est ce que j'appellerais la gravité. Il faut à chaque moment se rappeler qu'on est président de la République. Les hommes ou les femmes, enfin il n'y a pas eu de femmes pour l'instant, mais il y en aura, qui exercent cette fonction, d'une certaine manière ne s'appartiennent plus.
Vous êtes toujours en contact régulier avec le président ?
On ne peut pas avoir été, comme je l'ai été, en grande proximité pendant la campagne, puis à l'Élysée, et couper les ponts sous prétexte qu'on n'est plus un collaborateur direct. Donc, cette relation, elle existe toujours, mais je précise aussitôt que j'ai suffisamment constaté la difficulté du métier de conseiller, etc., pour ne pas m'improviser aujourd'hui conseiller de l'extérieur et perturber le travail des conseillers qui, tous les jours et 24 heures sur 24, sont à ses côtés. Ça, c'est quelque chose que je trouve déplaisant et qu'en tout cas, moi, je ne fais pas parce que je trouverais ça décalé.
Ce premier cercle des débuts d'Emmanuel Macron, dont vous faites partie, les fameux Mormons, une collection de cerveaux, de talents jeunes, est-ce que la pensée n'a pas été trop complexe, Sylvain Faure ? Cette intelligence, est-ce qu'elle n'a pas eu une forme de déconnexion des enjeux du réel, des perceptions des Français ? Vous n'avez pas vu venir les Gilets jaunes, par exemple ?
Je pense aussi que c'est difficile, quand vous arrivez au pouvoir et que vous essayez finalement de réformer, de changer les choses, de vous exprimer ou d'exprimer les choses ou d'expliquer les choses comme tout le monde l'a fait jusqu'à vous. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où il faut quand même faire le pari d'expliquer aux Français que c'est peut-être pas aussi simple que ça, en fait. Les Français, ils comprennent quand on leur explique les choses. Alors ensuite, vous parlez des Gilets jaunes. Je pense pas que les Gilets jaunes ne comprennent pas que les choses sont complexes. Peut-être même que les Gilets jaunes trouvent que les choses sont trop complexes et qu'à la fin, ça fait trop de pression, que c'est trop compliqué, que c'est un phénomène qu'on ne peut pas prévoir, mais c'est un phénomène qu'on a parfaitement pu aussi comprendre. Il n'y a pas eu d'incompréhension. On n'a jamais dit les Gilets jaunes, c'est illégitime, ça n'a pas lieu d'être. Et ce qui nous a beaucoup frappé à l'époque, c'est que beaucoup de Gilets jaunes disaient des choses qu'on avait dites pendant la campagne. Mmh. La panne de l'ascenseur social, l'assignation à résidence, le manque d'opportunités, etc., le pouvoir d'achat, c'était des sujets qu'on avait largement abordés. Donc, évidemment que les choses sont très compliquées, ça ne sert à rien de parler aux Français comme s'ils étaient des enfants. Et en même temps, quand ils se révoltent, quand ils disent qu'ils en ont marre, il faut faire l'effort de les comprendre. Mais je crois que cet effort-là, c'est aussi un effort compliqué parce que la vie des gens est compliquée aujourd'hui. Ce n'est pas une vie simple, routinière, qui se déroule comme un long fleuve tranquille.
Bien sûr. Vous avez quitté l'Élysée il y a un an et demi, mais vous suivez forcément l'actualité, les discussions, tiens, en région sud, les portes qui claquent, l'envoi de ministres dans les Hauts-de-France. La politique à l'ancienne, ça revient assez vite finalement dans le Nouveau Monde.
Ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est que 2017 a été l'effet d'un dégagisme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi, c'est porté sur Emmanuel Macron, un désir de renouvellement, un désir de changement. Et au fond, ce dégagisme demeure. Et ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on dit oui, voilà, c'est de la politique à l'ancienne, etc. Mais cette politique à l'ancienne, elle n'est à l'ancienne qu'en apparence. En réalité, elle est tout à fait contemporaine. C'est-à-dire qu'on a affaire aujourd'hui à des partis politiques qui sont extraordinairement affaiblis, qui cherchent à se reconstruire, qui cherche à refaire des alliances, à recomposer le paysage. Et ce paysage, il a beaucoup de mal à se recomposer aujourd'hui. Vous voyez, ce mouvement-là de refonte du paysage politique, il est encore en cours. Et donc, oui, ça donne lieu à des alliances, ça donne lieu à des reconfigurations, mais ce n'est pas comme avant, ce n'est pas des accords d'appareil. Mmh. C'est des gens qui cherchent un port, qui cherchent une attache, qui cherchent une adhésion. C'est très différent et ce n'est pas forcément rassurant. Je pense que la stabilité d'un paysage politique, c'est aussi important pour une démocratie. Et la France est, de ce point de vue, dans la mutation de son paysage politique.
Et bien, au moment de votre départ, l'essayiste, le politologue Jérôme Fourquet disait de vous « Sylvain Faure savait parler aux Français de droite ». C'est important en France de parler de droite, à la droite.
Mais je sais, la droite aujourd'hui, moi je ne sais pas très bien ce que c'est en fait. Je pense que les Français, dans le monde tel qu'il va, n'ont plus beaucoup de repères à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus aller chercher leurs références tellement aux États-Unis ni à l'Est de l'Europe. Les Français, ils sont condamnés à regarder leur histoire en face. Et donc, si ce qu'on appelle la droite, c'est la fidélité à une histoire, c'est le fait justement de réfléchir à ce qu'on est en tant que Français par rapport à des histoires, par rapport à des traditions, par rapport à une mémoire commune. Alors oui, peut-être que ça s'appelle parler à la droite. Moi, je partage de ce point de vue avec lui, et je partage toujours, cette idée qu'il faut parler aux Français d'eux-mêmes, c'est-à-dire de là où ils sont, de là d'où ils viennent, de qui ils sont, et pas essayer de les emmener dans des choses complètement hors sol, qui ne leur ressemblent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le chaos du monde, c'est très important que ces repères reviennent aux Français. Est-ce que ça, c'est de droite ou c'est de gauche ? Moi, je crois que c'est juste français, quoi. C'est juste qu'il faut arrêter de se renier, il faut se regarder en face, sans complaisance, mais il faut aussi se réappartenir.
Sylvain Faure, le discours du Collège des Bernardins, c'est un discours qui compte pour vous, vous l'avez dit, à l'invitation de la Conférence des évêques de France. Pourquoi ce discours est-il important ?
Parce que je pense qu'on a eu tort à un moment d'opposer les Français entre eux au nom de leur religion. Les catholiques, on disait, en fait, ils ne sont pas complètement dans la société française parce qu'ils ont pris des positions, ils ont énoncé des propos qui les mettent un peu en dehors de la communauté, de la collectivité française, parce qu'ils ne sont pas dans le bon mouvement, etc. etc. On ne va pas dire à des gens, toi, tu es catholique, donc tu penses de manière pas très orthodoxe, et donc, finalement, tu n'es pas complètement dans la République. Et donc, c'était un discours, au fond, de réconciliation, c'est pas tout à fait ça, mais au fond, une manière de dire aux catholiques qui sont dans la République et qu'il n'y a pas de raison de les mettre à l'écart de la République, de la même manière qu'il n'y a pas de raison de mettre quelque religion que ce soit à l'écart de la République.
Mais alors sur les religions, on a parfois eu du mal à cerner le président de la République. Vous êtes peut-être d'ailleurs la personne à qui poser la question. Emmanuel Macron, il a mis du temps à arrêter sa pensée sur le sujet. Le port du voile dans l'espace public, ce n'est pas mon affaire. On s'en souvient. Il se positionne où, le président, sur la foi ? La religion, la laïcité.
Je pense que le président, il a d'abord un profond respect des religions. C'est sa formation philosophique, intellectuelle, qui fait qu'il sait ce que c'est, et qu'il y est sensible et qu'il le respecte. Et c'est vrai qu'il y a des tensions aujourd'hui entre l'expression religieuse et la laïcité. Donc lui, il est au cœur de ça, parce qu'au fond, il pourrait considérer que les religions, c'est pas important, donc silence dans les rangs, on n'en fait aucun cas, et finalement, on passe ça par perte et profit, et puis la laïcité reste la seule règle. Non, quand on est aussi à l'écoute de ce que les religions peuvent apporter au débat, ou de ce que les hommes de foi, ou les gens de foi en général, peuvent exprimer, ça vous oblige à réfléchir aussi très activement à la laïcité. Donc c'est toujours dans cette tension, et moi je dirais qu'il se situe dans cette tension-là, entre la laïcité qui s'impose à tous parce qu'on est en République et parce qu'on est la République française, et aussi l'existence de ces religions avec leur apport intellectuel, spirituel, culturel, sur lesquels on ne peut absolument pas faire l'impasse.
Mais est-ce qu'il est juste de penser ou de dire qu'Emmanuel Macron a eu du mal à se situer sur cette tension, justement ?
Il y a vraiment réfléchi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de précipitation, il y a eu une volonté tout de suite de dire, il y a probablement un travail à faire ou à refaire pour reconfigurer ou recalibrer tout ça, mais il faut le faire sans hâte. Et il faut le faire en prenant vraiment le temps de le faire, en trouvant le bon moyen de le faire et en trouvant le moyen de faire que personne ne se sente lésé ou nié. Donc je ne pense pas que ce soit la compréhension du sujet qui prenne du temps, mais c'est la façon dont ensuite vous le portez politiquement qui exige de faire les choses avec beaucoup de délicatesse et avec beaucoup de réflexion.
Mais cette question se conclut par le discours des Mureaux, qui n'est pas de vous, mais qui donnera la loi séparatisme. J'en parle et je dis que la question se conclut par là parce que, précisément, vous dites, Sylvain Faure, qu'un discours cristallise la pensée politique.
Quand je dis ça, en fait, c'est l'importance de la plume auprès des présidents successifs. C'est que, souvent, le moment du discours, c'est le moment où c'est le moment du discours qui fait qu'on va tout d'un coup sortir du bois, si j'ose dire, s'exprimer. Et donc, quand on sait qu'il y a cette espèce de date butoir, que à telle date, on va devoir s'exprimer sur tel sujet, ça active derrière toute la machine. C'est intéressant parce que, en fait, quand vous faites les discours, vous ne faites pas juste la sauce, en fait. Vous n'êtes pas là juste pour mettre des mots sur les idées des autres. Vous êtes obligé aussi d'avoir vous-même une réflexion sur tout ça. Et évidemment, l'idéal, c'est quand le président de la République que vous servez, d'abord vous fait confiance, et puis ensuite est capable d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Vous êtes un peu, parfois, une espèce de... Quand vous faites votre première version, votre deuxième version, votre dixième version, votre 25e version du discours, c'est le président, en fait, qui cristallise et autour du discours. Et donc, vous êtes là pour être un peu le réceptacle de ça et le miroir de ça. Et donc, c'est ce qui rend le métier à la fois particulièrement, prenant, pour ne pas dire plus. Et c'est ce qui le rend intéressant, c'est que vous êtes, en fait, aux premières loges de la fabrication de la prise de position présidentielle.
Sylvain Faure, vous êtes l'architecte du langage macronien. J'aimerais que nos auditeurs vous imaginent, ayant quitté l'équipe du président, devant les allocutions du président à 20h, au plus fort de la crise sanitaire, qu'avez-vous pensé des mots du texte ?
Moi, je me suis imaginé devant rédiger ou aider le président à rédiger ces allocutions très compliquées et puis assez fréquentes en plus. Et si vous voulez, on ne mesure pas complètement, quand on est à l'extérieur, le jeu de contraintes. C'est-à-dire qu'on voit bien que les propos du président à ce moment-là, ce n'est pas des propos qui sont écrits sur un coin de table avant de rentrer en salle d'enregistrement. Il a pesé les choses politiquement. Et donc, à la fin, vous avez un texte ou des textes qui sont une espèce de concentré d'arbitrage qui amène à de la décision. C'est vraiment pas, à mon avis, l'endroit où on fait de la littérature ou du style.
Oui.
C'est vraiment des textes, je dirais, presque de pratico-pratique, où il faut évidemment donner un peu une direction aux Français, mais aussi il faut délivrer des informations, il faut délivrer des lignes directrices. Et donc, c'est des textes qui doivent être particulièrement, à mon avis, difficiles à faire.
Mais si on revient à ce que vous disiez au tout début de l'interview, sur l'état profond, il y a un peu moins d'un an, vous disiez « J'ai trouvé regrettable que le commandement endosse la faillite de l'intendance ».
On voit bien qu'il y a des chaînes de commandement, des chaînes d'exécution plutôt, au sein de l'administration française qui ne fonctionnent pas, qu'on a fragmenté ces chaînes d'exécution, on a créé plein d'agences indépendantes, l'exécution des décisions, et c'est malheureusement le politique qui porte la responsabilité de ça. Moi, je vais vous donner un exemple, si vous me donnez le temps, un contre-exemple plus exactement, ce sont les armées françaises. Les armées françaises donnent l'exemple, au contraire, d'une administration qui sait pertinemment que tout le monde est tributaire et contribue au résultat final. Et que donc, si vous avez un soldat qui se fait tuer sur le terrain, c'est que quelque part dans la chaîne d'exécution, quelque chose n'aura pas fonctionné. Et cette responsabilité-là, ce serait intéressant qu'elle soit portée dans d'autres administrations françaises, parce qu'à la fin, ce ne sont pas des soldats qui sont tués sur le terrain, mais ce sont des malades qui meurent. Et donc, il y a dans l'administration française une espèce d'obligation de résultat qui devrait s'imposer, je trouve, mais c'est un avis tout à fait personnel, qui devrait s'imposer de manière beaucoup plus systématique. Il faut peut-être repenser un peu la philosophie du résultat.
Sylvain Faure, je voudrais qu'on termine sur une note un peu plus légère, mais une vraie question pour la plume du président, pour le coup. Dans le langage macronien, il y a ces mots désuets, galimacia, chicaïa, croquignolesque, bien sûr perlimpinpin, je ne les dis pas tous. Ce matin, est-ce qu'on peut avoir une explication ?
Alors là, typiquement, c'est le langage, non pas macronien, mais c'est le langage d'Emmanuel Macron, qui, au fond, parfois, apprécie ces mots désuets, parce qu'ils sont, en fait, ces mots désuets, d'abord, tout le monde les comprend. Et puis ensuite, je crois, bout de perlimpinpin, c'est pas très ésotérique comme terme.
Non.
Et puis, en fait, ça relève d'un langage français imagé, en effet, un peu à l'ancienne, mais qui vaut toujours mieux que la langue de bois.
Sylvain Faure, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sans langue de bois donc, avec les moyens techniques de Laurent Pellet, 4 ans après l'élection du président de la République et à 1 an de la prochaine élection présidentielle, un regard qualifié sur le quinquennat. Sylvain Faure, merci encore d'avoir choisi Europe 1 ce matin.
Merci beaucoup.